VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 31 août 2016. À la une ce soir.
Une tension au Gabon où le président sortant Ali Bongo a été réélu d'après les résultats provisoires proclamés ce mercredi.
Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%.
Notre envoyé spécial Idriss Fall fera le point de Libreville. Notre correspondant au Gabon prend aussi le pouls de la situation. Analyse, commentaire dans un segment spécial de notre journal.
Grève au Zimbabwe où plusieurs dizaines de manifestants anti-Mugabe ont été inculpés.
Pas d'accord de cesser le feu avec les Kurdes de Syrie. Ankara a prononcé le démenti quelques heures après l'annonce d'une trêve dans les médias.
Présidentielle américaine, Donald Trump effectue une visite surprise au Mexique. Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Le ministre de l'Intérieur du Gabon, Pacom Mwele Boubeya, avait à peine annoncé les résultats provisoires officiels du scrutin présidentiel du 27 août que les quartiers proches de l'opposition se sont enflammés. Pour une couverture intégrale de l'actualité au Gabon, d'abord nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Idriss Fall.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir Gabi et bonsoir aux auditeurs de la Voix de l'Amérique. Dans plusieurs quartiers de Libreville, des quartiers proches de l'opposition, la colère s'est exprimée dans les rues. Les jeunes manifestants en colère ont tenté d'ériger des barricades. Les forces de l'ordre sont intervenues avec du gaz lacrymogène, des canons à eau et même un hélicoptère qui survolait la ville. C'est Camille au poudre, c'est l'annonce des résultats que vous venez vous-même de reprendre du ministre de l'Intérieur, Paul-Marie Mukaga, qui a donné le président sortant Ali Bongo Ondimba, vainqueur avec plus de 49%, suivi de Jean Ping, le principal candidat de l'opposition, qui aurait un peu plus de 48%. Et au moment où on se parle, la ville de Port-Gentil aussi, qui est une ville rebelle, acquise à l'opposition, s'est enflammée. Et la nuit risque d'être longue au Gabon.
Voilà, merci Idriss Fall, notre envoyé spécial de VOA Afrique à Libreville.
Le camp de Jean Ping a rejeté la réélection du président Ali Bongo Ondimba et accuse le pouvoir de fraude. Il exige la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants criant « Ali doit partir » ont éclaté juste après l'annonce de la victoire du président sortant. Eric Manirakiza a joint Armand Ango, un partisan de Jean Ping.
Nous avons déjà la réaction de la population gabonaise qui a donné certains résultats que nous connaissons, c'est-à-dire que M. Ali Bongo a été battu par les urnes. Alors nous sommes avec notre population, avec la population gabonaise qui ne reconnaît pas les résultats qui ont été donnés par la Sénat et le ministère de l'Intérieur. Donc nous allons protester jusqu'au bout. Nous sommes là sur le terrain avec la population gabonaise.
Jusqu'au bout, qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a des observateurs internationaux qui étaient sur place, des observateurs américains, des observateurs européens. Ils ont suivi tout ce processus et nous n'allons pas laisser cette affaire. Ces résultats ont été, les résultats de la province du Haut-Ogooué ont été donnés globalement. Alors nous aimerions que les résultats soient donnés bureau de vote par bureau de vote, ce qui fera ressortir l'ampleur de la fraude qui a été faite par les partisans de M. Ali Bongo, c'est-à-dire le pouvoir en place, le ministère de l'Intérieur et la Sénat. Déjà le monde entier le sait que c'est de la triche, qu'il y avait déjà un rapport de 60 000 électeurs. M. Jean Ping était déjà à 60 000 électeurs de plus que M. Ali Bongo. C'est une seule province. Une seule province, voyez-vous, avec une participation de 99,96%. Vous vous rendez compte, ça, c'est jamais vu dans le monde, ça. Monsieur, ça ne peut pas continuer, on en a marre. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Un leader de l'opposition qui gagne les élections et c'est toujours la famille Bongo qui reprend le pouvoir. Vous voyez, ça ne va pas, ça ne peut pas durer comme ça, monsieur, on en a marre.
Armand Ango, un partisan de Jean Ping, joint à Bruxelles.
Le porte-parole du gouvernement, Alain Bidié-Nbizié, explique que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote.
Monsieur, les Gabonais viennent de voter pour élire un nouveau président et élire pour un nouveau mandat. Ils ont choisi le candidat Ali Bongo qui présentait un projet qu'ils ont validé. Pour ce qui est des réclamations d'opposition, elles doivent être fondées sur la loi gabonaise. Et la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, ni pour M. Ping, ni pour M. Ali Bongo. Donc nous n'allons pas réinventer la loi parce que l'opposition le demande, monsieur.
Il y a contestation des résultats. Pour question de transparence, qu'est-ce qui est prévu pour garantir la crédibilité?
La crédibilité est garantie par les lois gabonaises. Lorsque nous nous sommes engagés à cette élection, chacun connaissait les lois gabonaises. Et donc ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit refaire les lois. Et ça, nous sommes habitués maintenant dans notre pays à ce que l'opposition perdu, écrit et elle veut revendiquer pour refaire les lois de la République. On ne refait pas les lois parce que quelqu'un a perdu une élection. Elle a été faite dans les mêmes conditions pour tous les candidats et c'est la CNAP qui proclame les résultats de ce qui a été fait.
Le porte-parole du gouvernement, Alain Bidier-Nbizier.
Les réactions de Washington ne se sont pas fait attendre. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les événements qui se déroulent au Gabon, a déclaré le département d'État. Nous prenons note des résultats publiés par la commission électorale et nous exhortons toutes les parties à tempérer leurs discours. Le département d'État encourage les partisans des deux camps à rester calmes. Washington exhorte également toutes les forces de sécurité à respecter les droits de tous les citoyens gabonais.
Nous retrouvons toutes les dernières nouvelles du Gabon avec les photos et vidéos d'Idriss Fall sur VOA Afrique. Attentat suicide en Somalie. Au moins 15 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un membre d'Al-Shabaab. C'est du moins le nouveau bilan annoncé par le chef de la police de Mogadiscio, la capitale somalienne.
Au Zimbabwe, la police anti-émeute patrouillait ce mercredi dans les rues des principales villes du pays après l'appel à plusieurs mouvements de contestation lancés par des groupes d'opposants au président Robert Mugabe. Bagassi Koura.
Les camions de police anti-émeute sillonnaient ce matin le centre-ville de la capitale Harare où l'appel à la grève du mouvement Tayamouka, qui veut dire « nous sommes agités », était assez peu respecté selon l'AFP. À Bulawayo, la deuxième ville du pays et bastion de l'opposition, la police a déployé des canons à eau à l'endroit d'une manifestation prévue par un autre mouvement de contestation anti-Mugabe, Bulawayo Youth Arise, qui veut dire en anglais « la jeunesse de Bulawayo se lève ». Selon le porte-parole du groupe Tayamouka, Hardlife Muzingwa, la protestation ne cessera pas tant que Robert Mugabe n'aura pas quitté le pouvoir. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe connaît un mouvement de contestation anti-Mugabe d'une rare ampleur qui résiste à la répression du régime. Les manifestants, principalement issus de la société civile, réclament le départ du président au pouvoir depuis 1980, qu'ils accusent notamment d'être à l'origine de la faillite économique du pays.
Tamsir Touré, jeune rappeur guinéen soupçonné d'un viol, a été remis en liberté provisoire pour des raisons médicales à Conakry. Le mineur était en détention depuis novembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Turquie a démenti aujourd'hui avoir accepté un accord de cessez-le-feu par l'entremise des États-Unis avec la milice kurde de Syrie, indiquant ne pouvoir sous aucune circonstance accepter un compromis avec une organisation terroriste, entre guillemets. Nanit Talani.
Ce démenti intervient après l'annonce faite hier par les États-Unis sur un accord d'une trêve provisoire entre la Turquie et la Syrie. Le ministre turc des Affaires européennes, Omer Selik, a affirmé, contrairement à ce que certains porte-parole de pays étrangers disent, « nous n'acceptons sous aucune circonstance un compromis ou un cessez-le-feu entre la Turquie et les éléments kurdes ». Pour cet homme politique, la République turque est un État souverain et légitime qui ne peut être mis sur un pied d'égalité avec une organisation terroriste, c'est-à-dire le Parti de l'Union démocratique des Kurdes de Syrie. Les forces kurdes syriennes n'ont pas encore directement réagi à l'annonce américaine. Hier, Ankara a redemandé un retrait des combattants kurdes à l'est de l'Euphrate, conformément à un engagement des États-Unis.
Qui a tué le numéro 2 du groupe État islamique en Syrie? sur les ondes de la VOA. Un responsable américain rejette comme sans valeur la déclaration du ministère russe de la Défense, alléguant qu'Abu Muhammad al-Abnani est mort dans des frappes de l'armée russe où 40 militants de Daesh ont été tués hier. Washington avance qu'Adnani était la cible de la coalition à Al-Bab. Le Pentagone n'a pas fini d'évaluer les résultats de cette attaque.
Plus de 900 soldats et policiers afghans ont péri dans les combats contre les talibans durant le mois de juillet 2016. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général John Nicholson. Le bilan pour l'année écoulée s'élève à environ 5000 morts et 15000 blessés dans les rangs des forces de sécurité afghanes.
Au Brésil, le Sénat a approuvé à 61 voix contre 20 la destitution permanente de la présidente de gauche, Dilma Rousseff. Michel Temer, son vice-président, assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections.
Un autre signe du dégel entre les États-Unis et Cuba, le premier vol commercial américain s'est rendu sur l'île communiste aujourd'hui, une première depuis plus de 50 ans. L'appareil de JetBlue a quitté la Floride avec 150 personnes à son bord pour atterrir à Santa Clara, dans le centre de Cuba. Parmi les passagers, le ministre américain des Transports Anthony Fox, le PDG de JetBlue Robin Hayes, des journalistes et des Cubains d'origine. Le tourisme, il faut le dire, n'est toujours pas ouvert aux citoyens américains, sauf pour les voyages culturels, religieux, éducatifs, commerciaux et des visites de famille. Toutes ces exceptions existaient depuis quelque temps déjà. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et comme chaque jour, ce thème annonce la page sport, présentée ce soir par Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
C'est le dernier jour du mercato, le marché des transferts.
Oui, d'abord en Angleterre, Manchester City prête l'Ivoirien Wilfried Bonny à Stoke City. L'attaquant international ivoirien, non désiré par le nouvel entraîneur Pep Guardiola à Stoke City pour une saison, ont annoncé les deux parties ce mercredi. Bonny, âgé de 27 ans, arrivé à City pour près de 30 millions d'euros en janvier dernier, en 2015, pardon, en provenance de Swansea, a disputé 46 matchs avec le club manucuien pour 10 buts. L'international ivoirien, avec 44 sélections avec les éléphants, était devenu seulement le troisième choix derrière Sergio Aguero, le jeune Nigérian Kelechi Iheanacho, depuis l'arrivée de l'entraîneur catalan.
Angleterre toujours, Didier Ndong à Sunderland.
Oui, le milieu de terrain gabonais de Lorient, la Première Ligue française, a signé un contrat de 5 ans avec Sunderland qui a déboursé 16 millions d'euros pour sa venue, le montant de transfert le plus élevé de son histoire. C'est ce qu'a annoncé le club anglais, l'international de 22 ans avec 18 sélections, débarque de Lorient qu'il avait recruté pour 1 million d'euros en janvier 2015 au club tunisien de Sfax. Il a inscrit 2 buts en 46 apparitions avec le club français.
Parlons maintenant, Bagassi, de David Luiz du PSG. Il est en route pour Chelsea.
Oui, un accord a été trouvé entre le PSG, le Paris Saint-Germain et Chelsea pour le transfert du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, David Luiz, qui s'est rendu ce mercredi à Londres, selon plusieurs médias. Selon un tweet d'un journaliste du média français RMC Sport, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de près de 40 millions d'euros, bonus compris bien sûr. Le quotidien de la capitale, le Parisien, lui indique de son côté sur son site internet que le Parisien, le Brésilien, est parti dans la capitale anglaise à quelques heures de la fin du mercato.
Oui, il est à Paris depuis quelque temps. On peut dire qu'il est aussi parisien, David Luiz. En Belgique, Etienne Gillet de Monaco, prêté au Standard de Liège en Belgique. Oui. J'espère ne pas avoir massacré son nom.
Etienne Gillet, c'est bien ça, oui. Le défenseur international nigérian de Monaco, Elderson Etienne Gillet, âgé de 28 ans, a été prêté une saison avec option d'achat au club belge du Standard de Liège. C'est ce qu'on a appris chez Roubaix ce mercredi auprès du club de la Principauté.
Jeux olympiques, 6 sportifs, dont 4 médaillés contrôlés positifs rétroactivement.
Oui, des athlètes et haltérophiles, dont 4 médaillés ont subi des contrôles antidopage positifs après réanalyse de leur échantillon prélevé lors des Jeux de Pékin en 2008, diligentés par le CIO.
Voilà, merci pour les sports, Bagassi Koura.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Gabon.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été réélu pour un deuxième septennat avec 49,80% des suffrages devant l'opposant et ex-cacique du régime d'Omar Bongo, Jean Ping, 48,23% lors du scrutin à un tour tenu samedi, selon les résultats officiels provisoires proclamés aujourd'hui à Libreville par le ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele Moubeya. L'opposition conteste les résultats de la province du Haut-Ogoué, où M. Bongo obtiendrait 95,46% des suffrages, avec une participation de 99,93% pour 71 714 inscrits. Alors, pour une analyse, John Lindon, adjoint au Canada, Maïs Mouississi, promoteur du site maïsmouississi.com, qui compilait les résultats province par province depuis samedi.
Oui, Maïs Mouissi, que l'on écoute maintenant.
Je constate que les résultats me semblent totalement décorrélés de la réalité du vote des Gabonais. La province du Haut-Ogoué, province d'origine du président de la République, a eu un taux de participation qui avoisine 100%. Ça voudrait dire que dans cette province, entre le moment de l'inscription sur les listes électorales et le moment du scrutin, il n'y a eu aucun mort. Il n'y a eu aucun blessé hospitalisé le jour du scrutin. Il n'y a eu aucune personne en déplacement en dehors de la province et qui devait voter. Les personnes qui étaient hospitalisées sont certainement sorties de l'hôpital pour aller voter. Voyez-vous, ça me paraît tellement atypique que je ne crois pas en la réalité des chiffres de la province du Haut-Ogoué.
Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Jean Ping rejette ses résultats et les jeunes sont descendus dans la rue.
Ce qu'il faut craindre, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux Gabonais, je pense d'ailleurs la majorité des Gabonais, pensent qu'Ali Bongo n'a pas remporté les élections présidentielles. À ce titre, on peut penser que des gens, comme c'est déjà le cas à Libreville, vont descendre dans la rue pour essayer de revendiquer leur victoire. Malheureusement, nous constatons que le régime d'Ali Bongo a utilisé la force, puisqu'au moment où je parle, je crois que Jean Ping a déjà annoncé qu'il y aurait eu 3 morts dans les rues de Libreville.
Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont demandé à ce que les votes soient comptés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui peut régler la situation?
Cette demande me relève du bon sens. Lorsqu'on a dans une localité, dans une province tout entière, un taux de participation de l'ordre de 100%, cette province a une dizaine de départements. Ça voudrait dire que dans 10 départements, il y a environ 100% des inscrits qui sont allés voter. Je pense quand même qu'il faut s'arrêter et regarder bureau de vote par bureau de vote. C'est le minimum que l'on puisse faire pour garantir la sérénité à l'issue de ce scrutin. Parce qu'on se dirige manifestement vers de la violence post-électorale. Ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour la sous-région dans un contexte où les pays voisins, notamment le Cameroun, est déjà tourmenté par des risques terroristes dans le Nord. On ne peut pas prendre le risque de déstabiliser la sous-région pour des raisons politiques parce qu'un leader n'a pas gagné convenablement les élections et essaye éventuellement de s'imposer en modifiant les chiffres issus des urnes.
Voilà, c'était l'expert Maïs Mouissi, promoteur du site maïsmouissi.com. Dans Washington Forum, direction le Gabon, où la Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23% face à son rival Jean Ping. Ce jeudi, on analyse le processus électoral et les résultats de ce vote à un tour. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant Ali Bongo? Quel futur pour l'opposition gabonaise? Quelles conséquences immédiates et à long terme pour le pays? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Cap sur Bangui, l'eau potable reste une denrée rare dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Les autorités affirment que des efforts sont en cours avec les partenaires pour donner de l'eau de bonne qualité à la population. Mais les habitants craignent une propagation du choléra. Le point avec Freeman Sipila.
Il est difficile aujourd'hui pour certains habitants de Bangui et des localités périphériques d'avoir accès à l'eau potable. À Bangui précisément, l'eau de la Sodeka, la société de distribution d'eau en Centrafrique, est rare dans certains quartiers. Les habitants, pour la plupart des femmes et des enfants, doivent se lever à 4h voire 3h du matin pour en avoir quelques heures plus tard. Émilie habite avec ses 6 enfants au PK11 à la sortie nord de Bangui.
Ce problème d'eau potable est très délicat. Les femmes ont de sérieuses difficultés. Parfois, il arrive que des bagarres s'éclatent devant les points d'eau. Quand tu envoies un enfant pour te chercher de l'eau, il y passe toute la journée. La consommation des eaux de pluie a de nombreuses conséquences sur la santé. Nous souffrons le plus des maux de ventre. Lorsque nous nous rendons dans les centres de santé, les infirmiers nous parlent toujours des vers intestinaux. C'est un problème qu'il faut prendre au sérieux.
Au village Mboko, situé à près d'une vingtaine de kilomètres de la capitale. Pour avoir de l'eau potable, les habitants doivent se rendre à Bangui. Martin Mokobende est enseignant dans ce village.
Oui, le village Mboko est un village qui semble être vaste. On peut compter 9 villages pour aller s'approvisionner au niveau de Wango, de Bangui pour s'approvisionner de l'eau potable. Il faut aller là-bas pour puiser de l'eau de fontaine ou bien du forage au niveau de Mangapu pour venir s'approvisionner en eau potable. C'est un peu difficile. Donc, c'est ce que nous déplorons dans cette localité. Pas de forage.
Dans d'autres localité, en l'absence des installations de fourniture d'eau potable, les habitants s'abattent sur les eaux de source ou encore de marigots. Avec l'épidémie de choléra dans le pays, leur crainte ne fait que s'agrandir. Jean Durumba est chef du village Belelikanda, situé à une trentaine de kilomètres au bord du fleuve Ubangi.
Je souhaite que les autorités songent aux habitants du village Belelikanda en installant des points d'eau potable. C'est un grand village qui se trouve au bord du fleuve. Nous consommons l'eau du fleuve, mais quand il pleut, la qualité de l'eau n'est pas bonne. Cette situation est source de beaucoup de maladies.
À la Sodeka, société de distribution d'eau en Centrafrique, société de l'État, les responsables expliquent que la rupture de l'eau potable dans certains quartiers de la capitale se justifie par des actes de vandalisme sur les installations de la société. Ils annoncent toutefois des efforts en cours avec les partenaires pour alimenter certains secteurs. Pour faire face à cette pénurie d'eau potable, l'Agence nationale des eaux et d'assainissement a lancé en juin dernier un projet de construction des forages dans les zones périphériques de la capitale. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Et nous partons maintenant au Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution nationale, doit avoir un mémorial. C'est en tout cas le souhait de nombreux Burkinabés. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Ouenogo.
Au temps fort de l'insurrection, un seul nom revenait comme un leitmotiv, morceau choisi.
Le pays nous appartient. Nous sommes des enfants de Thomas Sankara.
Thomas Sankara, je ne l'ai pas connu physiquement, mais je n'ai trouvé qu'il est parti. Ce que moi je retiens de Thomas Sankara, c'est que j'entends parler seulement qu'il a une grande personnalité.
Voilà ce qui justifie la construction d'un mémorial Thomas Sankara, a dit le chercheur Luc Damiba.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas accès à toutes les informations, à tout le discours politique, même social et pédagogique de Thomas Sankara. Donc c'est de remettre tout ça à la disposition du grand public. Et c'est aussi pour nous un espace touristique. Parce que sur 5 touristes qui viennent au Burkina, 2 cherche à voir les vestiges de la révolution ou aller sur la tombe de Sankara. C'est pas seulement que l'individu Thomas Sankara, mais c'est toute la pensée politique de la révolution qui sera représentée dans le mémorial.
Pour que le mémorial porte tout son symbole, les initiateurs veulent l'implanter sur les lieux même où Thomas Sankara a été assassiné en 1987. L'artiste musicien et responsable du ballet citoyen Smoky explique.
Ce n'est pas possible qu'on nous refuse ce lieu-là. À partir du moment où on le veut vraiment, si le peuple burkinabé le veut vraiment, eh bien ce lieu-là, on l'aura. Voilà, donc moi je suis assez optimiste de ce côté-là. On ne veut pas vendre la mèche avant d'avoir obtenu cet espace, mais je pense que c'est en bonne voie.
Quelle partition va jouer le gouvernement burkinabé dans ce projet? La réponse avec Tayour Bari, le ministre de la Culture.
Le gouvernement soutient de façon ferme le projet. La contribution du gouvernement va se manifester autour de la mise à disposition du site, le Conseil de l'Entente, et bien entendu avec une contribution financière conséquente.
Ce projet vient au moment où des doutes planent sur la tombe qui est supposée être celle de Thomas Sankara. Qu'à cela ne tienne, affirme Fidèle Touy, ami d'enfance et ministre sous la Révolution.
De tout temps, avant même qu'on cherche à savoir où est la tombe de Thomas Sankara, nous avons toujours souhaité qu'il y ait un mémorial. Je veux surtout que l'initiative se poursuive, l'initiative prenne et que nous aboutissions effectivement à la réalisation concrète d'un mémorial. L'homme mérite un mémorial pour le Burkina, pour l'Afrique et voire même pour le monde.
C'est le même accueil favorable chez Maître Benewende Sankara, avocat du dossier Thomas Sankara et président du parti d'obédience sankariste.
Le combat de notre peuple et surtout la mobilisation populaire à travers des luttes multiformes, ça a permis aujourd'hui à réhabiliter le président Thomas Sankara et lui dédier un mausolée, mémorial, c'est pour nous source de fierté légitime et pour nous c'est une victoire d'étape et c'est aussi le couronnement de tant d'efforts de tous les progressistes, de tous les sankaristes du monde entier.
Ce projet de mémorial a comme président d'honneur Jerry John Rawlings, ancien chef d'État du Ghana et ami de Thomas Sankara. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, importante journée pour le républicain Donald Trump qui effectue un voyage au Mexique avant son discours sur l'immigration. On fait le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Le candidat républicain répond à une invitation que le président mexicain Enrique Peña Nieto lui a envoyée, ainsi qu'à son adversaire démocrate, Mme Hillary Clinton, la semaine dernière. Cet aller-retour au Mexique, le premier séjour de Donald Trump à l'étranger en tant que candidat, est un voyage à risque compte tenu de ses propos passés au sujet de ce pays et de ses habitants. Le milliardaire s'était en effet engagé à expulser les 11 millions de sans-papiers vivant ici aux États-Unis, parmi lesquels de nombreux Mexicains. Il avait aussi dit qu'il érigerait un mur le long des 3200 kilomètres de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump se propose par ailleurs de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, pour le rendre plus favorable aux États-Unis. Nous ne l'aimons pas et nous rejetons sa visite, a déclaré à CNN l'ancien président mexicain Vicente Fox, ajoutant « Nous les Mexicains avons notre dignité et nous rejetons son discours haineux ». Le président Peña Nieto, lui, semble être venu à de meilleurs sentiments après avoir comparé les discours du candidat républicain à ceux de dictateurs comme Adolf Hitler ou encore Mussolini. Le dialogue avec Trump entre dans les efforts de protection des intérêts du Mexique et des Mexicains, où qu'ils soient, a-t-il déclaré mardi. Ce déplacement donne au candidat républicain l'occasion de projeter une image présidentielle. C'est un voyage qui prouve que Donald Trump sera un leader décisif s'il est élu, a déclaré son colistier Mike Pence.
Alors, le voyage de Donald Trump intervient le jour où il doit prononcer son discours très attendu sur l'immigration, Timothée.
En plus de la situation des 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis, le candidat républicain a promis par le passé d'expulser. Et Donald Trump s'est aussi engagé, s'il est élu, à faire annuler les mesures prises par le président Obama pour accorder une protection temporaire à certains immigrés en situation illégale, notamment ceux dont les enfants sont citoyens américains ou résidents permanents. Et dans une interview l'année dernière sur la chaîne NBC, le candidat républicain avait fait savoir qu'il veut supprimer le 14e amendement de la Constitution américaine qui accorde à tout enfant né aux États-Unis la nationalité américaine, même quand ses parents sont en situation irrégulière.
Merci Timothée Donongwei. C'est la fin de cette édition. Lionel Gueyma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000. On maintient la conversation. Et enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.